C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Imran.
Bonjour Violette, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique sur Radio Phoenix.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la valorisation de la recherche doctorale en Normandie. Pour cela, nous nous sommes rendus à la cérémonie de remise des diplômes de doctorat vendredi dernier, le 15 octobre, à l'amphi Pierre d'Or de l'Université de Caen.
Nous avons rencontré Pierrick Gandolfo, vice-président de Normandie Université, en charge de la formation doctorale et professeur en neurosciences à l'Université de Rouen.
Nous avons aussi donné la parole à trois docteurs, Pauline Billard, docteur en sciences du comportement animalier, Quentin Lauzet, docteur issu de l'école doctorale de chimie, et Denis Lecoq, docteur en économie et gestion, qui a reçu son diplôme à l'âge de 61 ans. Nous entendrons son témoignage en fin d'émission.
En plateau avec nous, Gwenaëlle Delpeux, responsable communication de Normandie Université, présente pour aborder les initiatives de valorisation qui sont mises en place par la communauté d'universités et établissements normands.
Et Manon Duguay, vice-secrétaire de l'association Normandie Doc, qui a pour objectif de fédérer tous les docteurs et doctorants de Normandie pour faire promotion de la science.
Mais tout de suite, notre flash avec les infos sciences de la semaine.
Hier, le groupe Facebook a annoncé sa volonté de recruter 10 000 personnes sur 5 ans en Europe. L'objectif de cette création massive de postes est de construire une plateforme informatique du futur, le métavers. Déjà perçu comme l'Internet de demain, le métavers désigne un réseau social complexe, intégralement en ligne et numérisé, où l'on peut effectuer les mêmes actions sur Internet, mais centralisé dans le même dispositif. Pour faire simple, c'est un genre d'univers numérique tel qu'on peut le voir dans les jeux en ligne. Un exemple, récemment dans le jeu à succès Fortnite, la chanteuse Ariana Grande et le rappeur Travis Scott avaient pu se produire sur scène, mais virtuellement dans le jeu. Plusieurs questions restent donc en suspens, quel outil pour accéder à cette plateforme et comment le droit s'appliquera dans le métavers en ce qui concerne par exemple la propriété intellectuelle des entreprises ou des personnes qui y seront représentées.
La conquête spatiale est en plein essor ces derniers temps. En seulement une semaine, on ne dénombre pas moins de 4 opérations. Mercredi dernier, le célèbre acteur de Star Trek, William Shatner, s'est envolé pour une dizaine de minutes en apesanteur lors d'un voyage spatial proposé par Blue Origin, devenant à 90 ans le doyen de l'espace. Vendredi dernier, ce sont 3 astronautes chinois qui ont décollé pour la mission Shenzhou 13, ayant pour objectif de poursuivre la construction de la Station Spatiale Internationale, vérifier les équipements et mener des expériences. Cette mission de 6 mois sera la plus longue mission chinoise habitée. Samedi 16, c'est la NASA qui a lancé la sonde Lucy vers les astéroïdes troyens qui gravitent autour de Jupiter pour tenter de percer les mystères du système solaire. Enfin, ce dimanche, et après 12 jours passés dans l'espace, l'équipe russe partit tourner le premier film dans l'espace et revenue sur Terre.
La COP26 n'amènera pas de grands changements. Cette phrase a été prononcée par l'activiste écologiste Greta Thunberg. À l'approche du lancement de la COP26, cette conférence internationale pour le climat qui aura lieu cette année à Glasgow, la jeune militante fait part de ses doutes concernant l'engagement écologiste des États du monde entier. Du 31 octobre au 12 novembre, ces États devront pourtant discuter et trouver de nouveaux accords climatiques, dont la priorité sera de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le dernier rapport du GIEC faisait état d'une montée irréversible des températures d'environ 3 degrés. D'après Greta Thunberg, il ne faut plus chercher à créer des niches dans les programmes, mais plutôt à sauver la planète, le présent et les conditions de vie des générations futures. La COP26 sera par ailleurs le sujet de C'est pas faux la semaine prochaine.
Et si on éteignait la nuit ? Ce dimanche 17 octobre, un collectif de scientifiques, militants et journalistes ont publié une tribune dans Le Monde réclamant une sobriété de l'éclairage public afin de préserver l'environnement. Ils ont aussi demandé aux États et organisations internationales de faire entrer ce bien immatériel au patrimoine mondial de l'humanité. Pour cela, il s'appuie sur des publications de la revue scientifique britannique Science Advances du 25 août dernier. Le collectif déclare qu'en ville et de nuit, moins d'une vingtaine d'étoiles sont visibles à l'œil nu dans le ciel. La faute à l'explosion de la lumière artificielle qui a augmenté de 84% ces 20 dernières années en France. Cette illumination de la nuit a pour conséquence directe l'effondrement de la faune et la flore, causant notamment la diminution de 38% du nombre de chauves-souris en France en 10 ans.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Vendredi dernier se tenait à l'amphithéâtre Pierre d'Or sur le campus Saint la cérémonie de remise des diplômes des doctorants, des docteurs même. Avec Violette, nous y étions. 600 personnes étaient présentes, parmi lesquelles les docteurs des promos 2019 et 2020 des universités de Caen, Rouen et Le Havre, ainsi que des écoles de l'ENSICAN et de l'INSA Rouen.
Écoutons l'interview de Pierrick Gandolfo.
Bonjour, je m'appelle Pierrick Gandolfo, je suis vice-président à Normande Université, chargé de la formation doctorale. Plus précisément, je coordonne le Collège des écoles doctorales, qui est une structure interne à Normande Université et qui chapeaute les 8 écoles doctorales normandes.
Alors pourquoi c'est important pour vous de valoriser la recherche avec cette cérémonie de remise des diplômes au docteur ?
Dans la grande société, on oublie souvent que le doctorat, c'est la production de données nouvelles qui s'inscrit dans une formation doctorale pour lequel le principal acteur est le doctorant lui-même. Et donc, c'est important de mettre en lumière et de valoriser les jeunes docteurs. C'est une façon de valoriser leur travail. C'est une façon de valoriser le travail réalisé dans les laboratoires de recherche sous la tutelle d'une direction de thèse. Et c'est une façon de promouvoir le doctorat, qui est un diplôme insuffisamment connu. Les choses s'améliorent, mais qui mérite d'être encore mieux connu dans la société.
Quels sont les événements par lesquels vous passez, par exemple, pour mettre en avant cette recherche et ces parcours de doctorants ?
Alors, il y a plusieurs types d'animations. Évidemment, la cérémonie de remise des diplômes de docteur chaque année est une de ces animations. Il y a d'autres animations, dont certaines que vous connaissez certainement, c'est ma thèse en 180 secondes. Il y a également des formations doctorales très particulières qui sont réalisées à l'échelle nationale, comme les doctoriales ou des séminaires de type Créinnové qui sont mis en place à disposition des doctorants pour préparer leur poursuite de carrière.
Est-ce que vous aidez aussi au financement, par exemple, à travers ces événements ? Est-ce que les doctorants reçoivent de l'aide, des financements pour continuer à innover et à faire de la recherche ?
Alors, au cours de leur formation, tous les doctorants peuvent bénéficier d'un certain nombre d'aides. Des aides à la mobilité, offertes soit par leur propre école doctorale, financée par leur établissement ou financée par la région, à d'autres types d'aides, toujours pour la mobilité, notamment proposées par la région Normandie. Ils bénéficient également d'un accompagnement pour pouvoir suivre un certain nombre de formations, comme les doctoriales ou Créinnové, des formations thématiques portées par l'école doctorale ou des formations transversales portées par le Collège des écoles doctorales, et tout ça contribuant à améliorer leur poursuite de carrière. Le diplôme de doctorat, finalement, c'est une étape, et la plupart des docteurs ne continueront pas forcément dans le milieu académique pour devenir chercheur ou enseignant-chercheur. Et donc, dans les écoles doctorales, dans les établissements qui accueillent des doctorants, on met en place tout un tas de dispositifs pour les accompagner.
Comment vous incitez les étudiants en master de recherche, par exemple, à poursuivre leurs études pour faire de la recherche et passer un doctorat ?
Alors, on l'oublie parfois, et peut-être un peu trop souvent, mais les enseignants dans l'université sont pour la nette majorité des enseignants-chercheurs. Et donc, finalement, ils sortent de leur laboratoire pour enseigner. Une université qui porte des diplômes, et en particulier des diplômes de master, c'est d'abord une gamme de compétences, une gamme d'expertise portée par des enseignants-chercheurs et portée par des chercheurs. Et donc, au travers des enseignements qu'ils dispensent, c'est aussi une façon de communiquer sur la recherche qui est réalisée dans les laboratoires et dans l'université. Et bien entendu, il y a aussi des stages réalisés dans les laboratoires qui permettent aux étudiants de licence ou de master de mieux connaître ce qu'est la recherche et la recherche pratiquée en particulier dans leur établissement d'inscription.
Est-ce que vous êtes donc en contact avec les laboratoires des universités normandes ? Est-ce que ce sont vos partenaires ?
Alors le terme est tout à fait judicieux. Vous avez utilisé le terme de partenaire. Effectivement, toutes les écoles doctorales ont en fait un ensemble d'unités de recherche partenaires. Un doctorant qui fait sa thèse dans un laboratoire, le laboratoire est rattaché à une école doctorale. Donc il y a en fait une espèce d'esprit collaboratif entre les établissements qui accueillent des doctorants, les écoles doctorales qui accompagnent au travers de la formation doctorale les doctorants et bien entendu les unités de recherche qui sont des unités de recherche partenaires des ED, des écoles doctorales.
Vous nous parliez plutôt des 8 écoles et on parle beaucoup aussi du territoire normand, mais est-ce que vous valorisez aussi la recherche doctorale à l'international en fait ? Est-ce que les doctorants sont poussés aussi à travailler avec des laboratoires sur le territoire européen ou à l'étranger ?
Une question éminemment importante, parce qu'effectivement, le doctorat est vraiment le diplôme qui rayonne à l'international. Alors, sachez tout d'abord qu'à l'échelle du territoire normand, 40% de nos doctorants sont d'origine étrangère, ce qui s'inscrit dans les chiffres nationaux. Ensuite, évidemment, on contribue au déplacement des doctorants, soit pour des mobilités dans le cadre de congrès, soit dans les mobilités, et c'est encore plus important, dans le cadre de la préparation de l'après-thèse. Beaucoup de doctorants qui souhaiteront poursuivre leur carrière dans le milieu académique pour pouvoir postuler sur des postes d'enseignant-chercheur ou de chercheur vont devoir faire plusieurs stages post-doctoraux, des contrats de recherche à l'étranger. Et plus, finalement, les relations sont mises en place avant la soutenance, plus ça facilite, en fait, ce positionnement des doctorants. Il y a également des aides dont on peut parler, des aides proposées à la mobilité, soit par les écoles doctorales, soit par la région, tout ça contribuant au rayonnement. Et parmi ces aides, il est parfois demandé aux doctorants, lorsqu'ils sont à l'étranger, de contribuer, de jouer un rôle d'ambassadeur, et donc de contribuer au rayonnement de la recherche développée sur le territoire normand.
Avec nous en studio, Gwenaëlle Delpeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication de Normandie Université. Pourquoi cette cérémonie de remise de diplôme est une forme de valorisation de la recherche ?
En fait, ce qui est intéressant pour Normandie Université dans cette cérémonie, c'est que ça vient clôturer une vie d'un doctorant qui devient docteur. Et ce qui est intéressant pour Normandie Université, c'est qu'on accompagne le doctorant de l'entrée à la sortie. Parce qu'on met en place, comme l'expliquait Pierrick, c'est qu'on met en place des événements de valorisation tout au long des 3 ans, 4 ans ou 5 ans hein, de doctorat, hein, des thésards, hein, par des cérémonies d'accueil, des formations doctorales, le programme Ma thèse en 180 secondes, qui est le plus connu, le programme Réflexion, les Créer Innover, les doctoriales, hein, qui sont des moments assez importants, en fait, auxquels nos doctorants peuvent s'inscrire. Et ce qui est bien dans cette cérémonie, c'est, comme je vous le disais, c'est que ça clôt une vie, ça clôt un parcours, ça clôt un chemin. Et pour nous, ça clôt aussi tout cet accompagnement qu'on a pu mettre en place pour eux. Voilà. Et c'est un moment qui est assez merveilleux, en fait, de partager avec eux, parce que c'est un moment qui est solennel, émouvant. Il y a les familles. Certains docteurs sont avec leurs enfants, avec leurs grands-parents, parents. Et pour nous, c'est émouvant. C'est de l'émotion aussi. Ce n'est pas juste une valorisation du parcours. C'est aussi une valorisation de vie.
Manon Duguay est aussi avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-secrétaire de l'association Normandie Doc. Votre objectif, c'est de fédérer en association les doctorants et les docteurs normands à travers la création récente de Normandie Doc en janvier 2021, qui est née de la fusion d'anciennes associations. Comment est-on passé de Optique à Normandie Doc ? Est-ce que c'est la volonté de s'ancrer, d'ancrer votre association dans le territoire ?
En fait, Optique, c'était une association qui regroupait plutôt, on va dire, des doctorants de sciences, ce qu'on va appeler des sciences dures. Donc, et c'est vrai que moi, étant, par exemple, d'une filière plutôt sciences humaines et sociales, on n'avait pas spécialement accès. Et puis, c'était surtout quelques labos, en fait, qui étaient réunis. Et en fait, il y a eu cette volonté parce qu'on échangeait entre doctorants dans des formations avec Normandie Université ou d'autres formations à côté, comme celle avec le Dôme. On échangeait ensemble et en fait on avait cette volonté aussi d'avoir une seule association qui fédère l'ensemble des doctorants et des docteurs pour pouvoir faire du lien et comme on dit, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, donc forcément si on est plus nombreux bah, on va pouvoir fédérer davantage et être rayonner davantage aussi sur le territoire.
Avec Normandie Doc, quelles sont vos ambitions est-ce que vous voulez toucher de nouvelles personnes?
Ah, on a déjà envie de valoriser le doctorat, donc ça passe par aller renseigner les masters, enfin ceux qui font de la recherche pour leur citer voilà, comment fonctionne le doctorat, quelles sont les sources de financement, pour justement à dire, enlever peut-être cette peur qu'il peut y avoir. Donc valoriser le doctorat dans ce sens. Après, donc, c'est au niveau du doctorat, quand le doctorant... commence sa thèse, c'est-à-dire donner les infos, parce que sur le plan administratif, il y a quand même pas mal de choses à gérer, donc c'est bien d'avoir l'expérience, entre guillemets, des plus anciens pour les aider, justement, et les accompagner dans ce genre de démarche. C'est aussi valoriser donc, certains projets, enfin, tous les projets de recherche, hein, via de la vulgarisation scientifique, notamment, des événements donc, sur le territoire. C'est aussi ça, puis bah, après, par la suite aussi, créer un réseau d'anciens, pour justement faire le lien docteur, doctorant et puis bah, par des approches aussi pluridisciplinaires, parce que des fois on échange entre nous et on se dit bon, bah, y a pas spécialement de lien, et finalement si on cherche un petit peu, bah, on peut tous s'apporter quelque chose, et donc c'est ça aussi qui est enrichissant dans les échanges avec l'ensemble des doctorants et des docteurs.
Normandie Doc est ancrée sur le territoire normand, mais est-ce que vous êtes en contact avec d'autres associations sur le territoire français ou à l'étranger ?
Oui, on est tout récent, donc après, donc c'est, on va se mettre en lien notamment avec les réseaux sociaux, parce qu'on est présent sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram, Facebook ou Twitter par exemple. Donc à travers les réseaux, on peut échanger aussi. Certains qui vont être en contact avec la CJC, si je ne me trompe pas dans le nom, où c'est vraiment le réseau avec l'ensemble des doctorants et des associations. Donc on est aussi avec, sur le plan local aussi, avec les collectivités, les mairies, etc. Donc on essaye de s'implanter. Donc là, on grandit petit à petit. Donc pour l'instant, comme tu le disais, on est tout jeune. on a même pas un an, donc on va se développer petit à petit au fur et à mesure du temps.
Gwenaëlle, on va écouter l'interview de Pauline Billard, docteure en sciences du comportement animalier, qui a participé à Ma thèse en 180 secondes, un dispositif de Normandie Université dont on parlera dans un instant.
Donc bonjour, je m'appelle Pauline Billard et ma thèse s'intitulait « L'étude comparative de la mémoire épisodique chez la sèche commune et chez le G ».
Qu'est-ce que c'est que le doctorat ?
Donc le doctorat, c'est un complément de formation qu'on fait en 3 ans après un master et qui nous permet donc d'avoir le titre de docteur. Donc c'est destiné à des gens qui veulent travailler dans la recherche en tant que chercheur ou en tant que chargé de recherche.
À quel moment de ton parcours en études supérieures, tu t'es dit que tu voulais faire un doctorat ?
Je pense que c'était donc au cours de mon master 1. En fait, j'ai choisi mon master, donc j'ai fait un master neurosciences et sciences des comportements à Caen. J'avais pas réalisé que c'était un master recherche, donc c'était pas du tout un diplôme professionnalisant. Et à partir de ce moment-là, j'ai adoré tout ce que j'ai fait pendant ce master et je me suis dit, c'est parti, je vais faire de la recherche.
Comment on trouve sa thèse ? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers ?
Oui, alors il faut être forcément passionné par son sujet. Voilà, moi j'ai travaillé sur l'animal, donc sur le comportement animal, donc il faut au moins être passionné par un aspect de votre thèse, par le comportement animal, dans mon cas. Et puis ensuite, c'est beaucoup de discussions avec du coup les potentiels directeurs de thèse. Il faut savoir que c'est assez compliqué de trouver une thèse aujourd'hui, il y a des financements, mais c'est pas forcément aisé de les avoir. Donc je pense qu'aussi la clé, c'est de bien être entouré.
Comment as-tu financé cette thèse ?
Alors, on a fait un financement on a postulé pour un financement qui vient de l'Université de Normandie, qui était un financement un peu particulier puisqu'il était en co-tutelle avec une autre université. Donc moi, c'était l'Université de Cambridge.
Tu nous parlais du suivi des étudiants et pendant leurs travaux de recherche, et comment il fonctionne ce suivi ? Il y a un comité, comment ça se passe ?
Donc, bien évidemment, on est suivi par notre directeur de thèse ou notre directrice de thèse, hein, qui suit de très très près nos travaux. Après, ça dépend aussi de l'encadrant, mais voilà, généralement, on fait des suivis tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois, enfin voilà. Et sinon, oui, on a un comité de thèse qui nous suit, donc qui est composé de membres de Normandie Université et de membres extérieurs à Normandie Université, qui sont généralement, enfin c'est à nous de les choisir, donc on choisit en fonction de notre sujet de thèse, et qui sont là tous les ans pour évaluer notre bien-être, déjà avant tout dans la thèse, et l'avancement des travaux de recherche et surtout la faisabilité. Donc ils ne sont pas là pour évaluer les données brutes, mais vraiment pour voir si c'est faisable, si on se sent bien dans la thèse ou s'il y a des problèmes.
Quels ont été les enjeux qui ont été révélés par ta thèse ? Comment tu l'as construite ?
Alors, donc moi, dans ma thèse, je me suis intéressée à la mémoire épisodique. Donc, c'est la mémoire des souvenirs personnellement vécus. Il y a déjà plein de travaux qui ont été faits sur la mémoire épisodique. Après, moi, je me suis intéressée à une partie de la mémoire épisodique. Hein. Les thèses, c'est hyper spécifique, donc voilà. Et j'ai pu montrer dans cette thèse que la sèche, qui est un céphalopode, donc un mollusque hein, comme l'huître, était capable donc de se souvenir ce qu'il avait vu ou senti après un délai de 3 heures. Donc, pourrait être une composante de cette capacité de mémoire épisodique.
Et qu'est-ce qu'on fait après la thèse ? On s'oriente plutôt vers encore de la recherche ou alors on rentre dans le domaine du travail, secteur public ou privé ?
Alors, je pense que ça dépend du milieu de la recherche. Donc, moi, j'ai une thèse en sciences des comportements. Je ne peux pas aller dans une industrie. Je ne peux pas faire ni du public ni du privé. Après, d'autres personnes peuvent le faire après une thèse. Sinon, le plus courant, c'est que les doctorants vont postuler pour un post-doctorat. Donc, ils vont encore faire une demande de financement, encore faire une proposition à des directeurs de laboratoire pour rentrer dans leur laboratoire en tant que post-doctorant. On a aussi le cas aujourd'hui, parce que c'est assez difficile de trouver un poste de post-doctorant directement après la thèse, de beaucoup de personnes qui deviennent ATER, donc attachés temporaires à l'enseignement et à la recherche, qui en fait donnent des cours à la fac, donc ont un revenu et en même temps ont un petit temps pour faire de la recherche. Donc ça permet en fait de garder un pied dans la recherche tout en cherchant après un post-doctorat.
Et dernière petite question, c'est un jour important pour toi, tu vas recevoir ton diplôme officiellement dans cette cérémonie. Qu'est-ce que ça te fait ?
Bah oui, c'est important parce que c'est quand même 3 ans, des fois c'est 4 ans, voire plus qu'on consacre à cette thèse. C'est un gros travail, ça demande beaucoup d'abnégation. Donc ouais, on est content d'avoir cette remise de diplôme, un peu de reconnaissance, c'est sympa.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On vient d'écouter le témoignage de Pauline, deuxième prix du jury lors de la finale normande de ma thèse en 180 secondes. Gwenaëlle Delpeux, qu'est-ce que cet événement, ma thèse en 180 secondes, apporte aux doctorants ?
Alors, ma thèse en 180 secondes, donc c'est un concours qui est organisé par Normandie Université et le CNRS Normandie en partenariat avec le Dôme, donc sur le territoire normand. Nous organisons donc la version normande du concours qui se joue aussi au national et à l'international. Donc, ce qu'il apporte en fait... Aux doctorants, Manon aussi pourra en parler peut-être mieux que moi parce qu'elle a participé au concours l'année dernière, elle faisait partie de nos 12 finalistes. C'est une formation à médiation scientifique et puis un défi surtout. Un défi, c'est ce que l'on met toujours quand on lance le recrutement de nos candidats, c'est relever un défi. Relever un défi un peu... pour soi-même, parce qu'il faut, en 180 secondes, parler de 3 ans de recherche en termes simples, pour un large public complètement profane, et puis affronter un public aussi. Enfin, parler devant un public, avoir les idées claires, etc., occuper l'espace, occuper la scène. Donc, en fait, ce concours, c'est aussi très formateur, je pense, pour nos doctorants, puisqu'il permet d'apprendre énormément de choses aussi sur soi-même, sur comment parler en public, comment être, savoir faire, parce qu'ils savent très bien parler de leur thèse, en fait. C'est ce qu'ils savent le mieux, même en 80 secondes, en termes simples. On se rend compte, en fait, au fur et à mesure des années, puisqu'on l'organise depuis 2014, c'est qu'ils savent très bien parler, vulgariser. Et c'est pour ça que je parle de défi, parce que c'est peut-être ça le plus compliqué, c'est de parler devant un public... et de se faire comprendre et de voilà.
Et qu'est-ce que gagne le finaliste ?
Alors, les finalistes normands gagnent le droit d'aller aux sélections nationales, où ils retrouvent 56 docteurs quand même nationaux, donc les sélections sont rudes après, et pendant ces sélections nationales, 17 doctorants donc sont retenus pour la finale nationale. Et au national, le vainqueur gagne la chance d'aller au concours international. Voilà, donc c'est vraiment tout un parcours, un gros parcours.
Alors Manon, tu es doctorante en sciences humaines et sociales en STAPS, tu l'as dit tout à l'heure. Tu as participé à ma thèse en 180 secondes en tant que doctorante. Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Ça m'a apporté beaucoup de joie déjà, parce que c'est une super expérience. On a, à chaque fois, que ce soit l'ambiance des formations avec les autres doctorants, c'est une super ambiance. Donc, c'est une super expérience. On partage un bon moment tous ensemble. Puis, c'est toujours positif de pouvoir valoriser ses travaux de recherche à travers ce genre d'événements et pouvoir les confronter aussi au grand public, parce que c'est vrai que pour beaucoup, la recherche est dans les laboratoires entre chercheurs, alors qu'en fait, ça passe aussi par de la vulgarisation scientifique. Et donc, c'est vrai, beaucoup de joie. Et on apprend sur soi. Pour certains qui ont passé justement le concours en même temps que moi, on voyait que c'était une façon aussi de surmonter ses peurs. Parce que le fait d'être confronté au public, c'est pas toujours simple pour tout le monde. Donc réussir à gérer le stress, gérer ses émotions lors de l'événement, c'est quelque chose qui est assez formateur.
Avec ma thèse en 180 secondes, on est en plein dans la valorisation des travaux de recherche. Mais avec Normandie Doc, comment est-ce que vous valorisez les travaux des doctorants à travers cette association ? Est-ce que c'est en faisant du partage, comme on l'avait dit précédemment, sur les réseaux sociaux ? Ou est-ce que c'est aussi une association qui relaie les profils quand il y a une demande ?
Oui, alors en fait, on met en place différents projets. Par exemple, récemment, on était sur la Fête de la Science. On a fait un projet en partenariat avec le Dôme où on a mis en place des conférences dans les bibliothèques. Où là, on a fait un appel pas à candidature, mais on a sollicité les doctorants en leur disant voilà, dans le cadre de la Fête de la Science, on souhaite organiser des conférences dans les bibliothèques. Est-ce qu'il y a des doctorants parmi vous qui ont envie d'aller échanger avec le grand public dans les bibliothèques. Et donc, on a recruté un certain nombre de doctorants qui sont allés dans les bibliothèques et pour parler de leur recherche. Donc, c'est à travers des événements comme ça. Donc, il y a aussi d'autres événements qui seront mis en place, chercheurs-chercheuses qui sont justement, des ateliers auprès du grand public où on échange avec les gens. Donc tout ça, ce sont des profils. Donc à chaque fois, on sollicite les doctorants qui ont envie de participer. Et puis ouais, c'est parti.
Gwenaëlle Delpeu, on parle de valorisation de la recherche. On a parlé de ma thèse en 180 secondes. Vous avez énuméré les dispositifs précédemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, le dispositif Réflexion ?
Oui, alors Réflexion, c'est un programme que nous avons lancé il y a 2 ans en partenariat aussi avec CNRS Normandie et le Dôme. Donc c'est un projet aussi de diffusion, de vulgarisation scientifique. C'est l'animation d'un compte Instagram par des jeunes chercheuses et chercheurs. Donc on les forme aussi à l'animation de ce compte et pendant une semaine, on va rentrer dans les coulisses du jeune chercheur ou de la jeune chercheuse. Ils vont, pendant une semaine, comme je vous le disais, montrer l'envers du décor, parler de leur sujet de recherche, de leur discipline, de leur réussite, peut-être de leur échec par moment, parce que c'est ça aussi, c'est la vie du labo, et montrer le quotidien. Et ce projet, il est vraiment fait pour démystifier le monde de la recherche, et casser les images reçues que l'on peut avoir. Et il est vraiment destiné à un très très grand public, d'où le réseau social aussi, médias social Instagram. L'idée, c'est bien de faire comprendre aux gens que la science, ce n'est pas qu'un chercheur en chimie dans un labo derrière une paillasse. La science, c'est autant la géo, l'histoire, le sport, la chimie, la biolo, les arts en général, le cinéma, la littérature, et nos jeunes, justement, qui répondent à cet appel à candidature qui est en cours actuellement, sont de disciplines vraiment diverses et variées, et on passe d'un jeune à un autre en découvrant, justement, des disciplines que l'on ne soupçonnait pas. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Manon nous parlait un petit peu plus tôt de cet appel à projet, plutôt le contact qu'elle a eu avec le Dôme pour organiser ces petites conférences. Est-ce que vous remarquez une réelle envie de cette nouvelle génération de docteurs de vulgariser leurs recherches ?
Oui, vraiment. On le sent, en fait, comme j'expliquais, nous, on est sur le terrain depuis 2014 pour mettre en place des opérations. Et on le sent, année après année, il y a vraiment une appétence de cette jeune génération à vouloir partager ce qu'ils aiment. Parce que c'est vraiment aussi, il ne faut pas oublier que quand on fait un doctorat, c'est parce qu'on aime aussi ce que l'on fait. On ne le fait pas comme ça par hasard. C'est qu'il y a vraiment une volonté d'être là. Et il y a vraiment une volonté, oui, de partager, de rencontrer les publics et de dire ce que l'on fait. De dire ce que l'on fait parce qu'on aime ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de dispositifs qui sont mis en place pour proposer à cette jeune génération un pouvoir de parole aussi, de bonne parole envers un public qui a envie aussi de découvrir ce qu'est le milieu de la recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que le public aussi, de l'autre côté, a cette envie de découverte. Et c'est vrai que je pense que les réseaux sociaux nous aident aussi à partager et à porter aussi la bonne parole. Voilà.
Vous restez avec nous, Gwenaëlle Delpeux et Manon Duguay. Après une courte pause musicale, nous parlerons des financements possibles pour faire une thèse. Mais tout de suite, vous écoutez United de Futuro Pelo sur Radio Phoenix.
C'était United Futuro Pelo sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours dans C'est pas faux, l'émission de vulgarisation scientifique qui aborde aujourd'hui le sujet des doctorants et la valorisation de la recherche en Normandie. Pour faire une thèse, il faut trouver des financements. Pauline nous parle des pistes de financement possibles. Manon, est-ce que votre association aide les doctorants et les post-doctorants à trouver des financements pour leurs activités de recherche ?
On les oriente surtout sur, en leur expliquant les différents dispositifs possibles pour faire un financement. Donc, il y a plusieurs. Donc, il y a la TESTIF, par exemple, qui est le fait de faire une thèse en entreprise. Après, il y a des contrats région. Donc là, c'est un dossier à déposer et du coup, une sélection qui est effectuée après. Et du coup, le doctorant est financé par la région Normandie. Ou alors, comme moi, par exemple, j'ai un contrat, ce qu'on appelle un contrat établissement. Donc là, j'ai déposé un dossier qui était donc classé. Et après, il y a une audition, en fait, devant l'école doctorale avec différents représentants de laboratoires issus de l'école doctorale qui fait après un classement. Et du coup, en fonction du classement, on obtient suivant le classement, on obtient un financement. Donc moi, je suis financée par un contrat établissement. Après, il peut y avoir aussi des financements via des ANR. Donc là, c'est des laboratoires en fait, qui déposent des dossiers. Et du coup, dans ces dossiers, il y a potentiellement un contrat doctoral qui est inclus. Donc il y a plusieurs sortes de contrats. Mais du coup, nous, notamment sur notre site internet, Normandie Doc, on a ces informations concernant le financement.
On a vu qu'il existait aussi des maisons du doctorat en Normandie. Gwenaëlle, comment est-ce que ces structures aident à trouver des financements ?
Alors, la maison du doctorat n'aide pas forcément à trouver des financements, mais plutôt à accompagner le doctorant pendant ses années de thèse. En fait, c'est un lieu qui est... la maison du doctorat, il y en a à Caen, à Rouen, Le Havre, bien sûr, parce que nous sommes sur tout le territoire normand. Et c'est un lieu où le doctorant peut aller pour se renseigner et pour que des personnes puissent l'orienter sur ces différentes démarches. Donc ça peut être des démarches aussi pour certains doctorants internationaux, des démarches de visa ou autre. En fait, c'est du personnel qui est qualifié pour aider le doctorant, le thésard, comme on peut dire aussi, à suivre son dossier. Et les personnes qui sont là suivent chaque doctorant pour ses inscriptions, son suivi, ses réinscriptions tous les ans. Donc c'est un lieu où ils pourront trouver de l'aide pour toute démarche administrative aussi. Voilà.
Alors toujours en lien avec la question du financement de la recherche doctorale, on va écouter l'interview de Quentin, docteur en chimie.
Je m'appelle Quentin Lozé. Donc, je suis docteur en physico-chimie des polymères et j'ai préparé une thèse qui porte sur l'élaboration et la caractérisation de films multinanocouches. Donc, pour faire un peu simple, j'ai créé un film qui a une structure un peu comme le millefeuille, où en fait, on vient superposer différents polymères pour apporter des propriétés qui sont propres à chacun des polymères et apporter les deux propriétés ensemble. Donc moi, pendant ma thèse, en fait, j'ai créé ces films-là et ensuite je les ai caractérisés, notamment en termes de propriétés de perméation, donc ce qui va être la diffusion de l'eau et des gaz à travers ce film-là. Et ça visait notamment tout ce qui est dans l'industrie du packaging ou éventuellement, ça pouvait aussi avoir des portées sur l'aéronautique et la conception des réservoirs d'essence, par exemple.
Quel a été ton parcours ? Comment et à quel moment dans tes études tu as commencé à vouloir faire un doctorat ?
Alors, le doctorat, en fait, j'y ai pensé un peu quand j'étais tout gamin, mais alors pas du tout dans le domaine dans lequel je l'ai fait aujourd'hui. Mais on va dire que c'est arrivé un peu, pas par hasard, mais au cours de ma licence, en fait, j'ai vraiment accroché sur le domaine que j'ai étudié, qui est les matériaux en règle générale. Et en fait, après, j'ai poussé un peu plus en master dans le domaine des polymères. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à entreapercevoir le monde de la recherche et les laboratoires, notamment. Et c'est resté dans un coin de ma tête, en fait. Mais je ne me suis pas dit dès le départ que j'allais faire un doctorat et une thèse. C'est à la suite de mon master, en fait, j'ai décidé de chercher du boulot. Et malheureusement, par manque d'expérience, comme on m'a souvent dit, j'ai pas été pris. Et c'est en fait mon ancien directeur de master qui m'a appelé un jour et qui m'a dit « Bah voilà, écoute Quentin, y a un sujet de recherche qui pourrait t'intéresser. Et au vu de ce que tu nous as démontré pendant ton master et des compétences que tu peux avoir, ça pourrait être intéressant pour toi comme pour nous. » Donc j'ai fait un entretien et ça s'est plutôt bien passé. On était d'accord avec l'ensemble de mes directeurs parce que j'avais plusieurs directeurs. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Mais en fait, initialement, je ne me suis jamais dit que je ferais un doctorat en sortie du bac, par exemple.
Tu as mis combien de temps du coup à faire cette thèse ?
Alors moi, la thèse, j'ai été financé pour 3 ans. Et on va dire que je l'ai soutenu au bout de 3 ans et demi à cause notamment de la pandémie qui a un peu arrêté tous les travaux du jour au lendemain. En fait, j'étais censé soutenir 3 semaines après le début du confinement. Donc en fait, ça a reculé un petit peu, mais je l'ai passé en 3 ans. Et c'est généralement la durée normale d'une thèse, en tout cas dans les sciences appliquées.
Tu disais que tu as été financé pour 3 ans. Comment tu as eu ces financements ? Qui t'a accompagné ?
Alors en fait, c'est des financements, il y a plusieurs styles de financement. Il peut y avoir des financements qui vont être de type européen via différents projets. Il y a des financements qui sont plutôt au niveau de l'État et c'est des bourses ministérielles. Et enfin, il y a des financements qui sont en collaboration avec des entreprises. Donc moi, j'étais sur un financement européen qui est donné par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Donc c'est en fait c'est des fonds qui sont à la fois européens et nationaux. Et c'est voilà, un financement pour une durée de 3 ans avec des options pour acheter des équipements qui vont pouvoir être utilisés ensuite pour d'autres projets de recherche.
Tu as eu des financements européens. Est-ce que ça veut dire que tu as un parcours un petit peu international et tu as dû faire de la recherche avec des laboratoires à l'étranger ou des personnes qui sont tournées vers l'étranger, l'Europe ?
Bien sûr, oui. L'international est très important quand on fait une thèse et quand on est dans le milieu de la recherche en global, parce qu'en fait, notre travail repose essentiellement sur le travail de nos confrères et ce travail-là est dispensé uniquement en anglais, pour des raisons évidentes de diffusion de l'information. Donc l'international est très présent. Après, moi, dans mon cursus, j'ai eu la chance de pouvoir partir un peu à l'étranger. Je suis parti 3 mois en Suède. Ça, c'était sur un stage en licence. Et c'est aussi quelque chose qui a pu être un élément déclencheur, peut-être aussi, pour faire une thèse. En fait, dans les laboratoires, on a des étudiants qui viennent de l'étranger. On a des professeurs qui peuvent aussi venir de l'étranger. Et moi, j'ai eu aussi l'occasion, c'est de partir en congrès dans le cadre de mon travail, de présenter mes travaux lors d'une conférence qui s'était déroulée à Singapour, notamment. Donc, le côté international est vraiment très important dans ce milieu-là.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Il n'y a pas de quoi. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Alors, ça a beaucoup été dit durant la cérémonie vendredi dernier. Le doctorat est le diplôme du plus haut grade que l'université peut décerner. Mais comment se passe l'après ? On fait quoi après un doctorat, Manon ?
On fait quoi ? Après, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. On peut être dans le milieu de l'entreprise, on peut aussi monter son entreprise en fonction du domaine, on peut être dans des secteurs plutôt académiques, on peut aussi être dans le domaine du privé, ça peut être dans des cabinets, au sein des associations, au sein des collectivités territoriales. Ça, en fait, ça va être aussi propre à chaque discipline. Donc, c'est aussi ça qu'on va chercher à mettre en évidence via l'association, c'est de montrer, en fait, les possibilités et de faire connaître aussi les possibilités après le doctorat pour montrer aux doctorants que c'est pas juste des filières académiques. Au contraire, c'est qu'il y a d'autres choses à faire en dehors des filières académiques. En plus, il y a très peu de contrats. Donc, valoriser aussi le doctorat et faire connaître le doctorat, ça peut aussi permettre à des entreprises de dire « Ah tiens, en fait, si on recruterait un docteur, ça serait peut-être pas mal aussi. Il y a des compétences qui ont été développées au sein du doctorat qui peuvent nous être utiles. »
En parlant des entreprises, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, Gwenaëlle, l'entrepreneuriat est une activité postdoctorale et qui est notamment encouragée par Normandie Université via le projet Pépite. En quoi est-ce qu'il consiste concrètement ce projet ?
Donc le pôle Pépite Normandie est le pôle d'entrepreneuriat étudiant pour la Normandie. Il accompagne les jeunes qui ont des idées, qui souhaitent entreprendre et particulièrement en fait pour les doctorants, Pépite co-organise avec le pôle formation doctorale de Normandie Université les séminaires créés, innovés et les doctoriales qui sont vraiment axés sur l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, comment chercher un job plus tard ou créer sa boîte, etc. Donc en fait, Pépite intervient aussi au sein de la formation doctorale et bien sûr intervient pour tous les étudiants normands sur le territoire normand pour les accompagner de l'idée à la création d'entreprises ou de start-up ou de projets innovants. Voilà.
Et Manon, pour le mot de la fin, comment suivre Normandie Doc et puis comment vous rejoindre ?
Nous suivre, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. On a notre site internet Normandie Doc et pour nous rejoindre, c'est tout simple. Il n'y a pas besoin d'une cotisation. Vous allez sur internet et il y a un onglet pour nous rejoindre. Vous remplissez un petit formulaire et vous êtes adhérent de Normandie Doc.
Merci Gwenaëlle Delpeux et merci Manon Duguay d'être venue nous parler de la valorisation de la recherche en Normandie à travers l'association Normandie Doc notamment et à travers cette remise des diplômes des docteurs.
Merci, bonne journée.
Et avant l'agenda scientifique, je vous propose d'écouter Denis, docteur en économie, gestion, qui recevait lui aussi son diplôme vendredi dernier, mais à l'âge de 61 ans.
Alors, je m'appelle Denis Lecoq, j'ai bientôt 62 ans, je suis un ancien infirmier, cadre de santé. Je me suis beaucoup préoccupé des problématiques de coordination, ce qui fait qu'il y a une dizaine d'années, j'ai repris des études. Encouragé par ma directrice de thèse, je suis rentré en parcours de thèse. Sur 6 années, j'ai préparé une thèse qui portait sur ces nouveaux métiers de la coordination, comment ils peuvent être reconnus en fait, dans l'institution de la santé.
Quel a été le déclic pour faire une thèse ?
Il faudrait reprendre un petit peu le parcours. Mais je vous l'ai dit, il y a 10 ans, pour pouvoir en fait, diriger une association qui gérait un réseau de soins palliatifs sur Caen et sa couronne, il a fallu en fait, que je fasse une montée en compétences pour diriger l'association. Et là, j'ai préparé en fait un master de management des organisations sociales à l'IAE de Caen. Quand j'ai présenté mon étude professionnelle, la présidente du jury m'a encouragé, en fait, si ça m'intéressait, à poursuivre le parcours. Ce qui fait qu'une année plus tard, je me suis présenté au master recherche et conseil. J'ai été reçu et je l'ai obtenu donc un an plus tard. Et là, ça m'a permis de proposer un sujet de thèse. Sur la coordination, hein, bien sûr, il a évolué, mûri. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentré en parcours de thèse, quoi.
Comment vous avez travaillé sur votre thèse parallèlement ?
Eh bien, on y passe ces week-ends. La nuit, on fait attention de ne pas réveiller son conjoint pour rejoindre son ordinateur, son bureau, noter ses idées. Ça dévore. Alors là, un parcours de thèse, c'est aussi, c'est pas un parcours que personnel, c'est ma famille hein, aussi qui s'est investie, qui a accepté de partager tout ça. Les moments où ça va bien, les moments où ça va moins bien. Ce sont mon épouse, mes enfants. On a 5 enfants qui m'ont beaucoup encouragé avec ma famille à continuer malgré mon presque grand âge, quoi.
Vous avez eu des accompagnements, des financements pour cette thèse ?
Non, je n'ai eu aucun financement. C'était en travaillant, donc c'est normal, j'étais salarié. Puis des aides, les aides, c'est surtout peut-être plus au niveau de l'IAE, et je crois qu'il faut le souligner, c'est vraiment toute l'aide humaine, en fait. Hein, d'abord le soutien, pour ma part, de ma directrice de thèse, du groupe qui l'accompagne, Madame Squarneck en l'occurrence, et puis de toute l'école doctorale, hein, avec le NIMEC, avec le professeur Bray, le recours souvent aux séminaires doctoraux qui permettent de proposer aux autres l'avancement de ses travaux, d'être critiqué positivement. Et ça permet d'avancer parce que le danger, en fait, dans le doctorat, je trouve, c'est presque l'isolement, en fait. Et voilà, on a besoin des autres pour avancer.
Et est-ce que vous allez continuer vos travaux de recherche, peut-être dans d'autres domaines et continuer ?
Alors, étant donné que la retraite arrive dans quelques semaines, on va dire que ça va être plus le plaisir de faire de la recherche, mais aussi en fait plus de participer à faire progresser des structures. En l'occurrence, on travaille avec un pôle de santé qui est à IF, hein, autour de Caen. Parce que le pôle de santé de IF a mené une action de plusieurs mois là, avec l'ouverture du centre de vaccination, hein, éponyme, Atrium IF. Et donc, à l'issue de cette expérience, on va essayer de voir si on peut écrire un article sur la coordination de la collaboration, puisqu'il y avait des professionnels de santé libéraux, mais aussi des salariés qui ont travaillé ensemble, qui ont su travailler ensemble, faire équipe. Et ça, c'est super important et très dynamisant.
Et voici l'agenda scientifique de la semaine.
Normandie Université, le Dôme et le CNRS Normandie lancent la saison 4 du projet Réflexion. Ce dernier vise à promouvoir la recherche en invitant le public à suivre le quotidien des chercheurs et chercheuses via des événements et le réseau Instagram. Un appel à candidature pour devenir ambassadeur et ambassadrice est ouvert. Pour cela, rendez-vous sur normandie-univ.fr avant le 8 novembre.
Cet après-midi, le SUMS, service de santé des étudiants de l'Université de Caen, organise un atelier ludique « Mois sans tabac ». En amont de ce mois thématique qui aura lieu en novembre, cet atelier est ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur consommation de tabac, et qu'ils souhaitent la diminuer, la stopper ou non. Pour y participer, il faut s'inscrire auprès du SUMS.
On vous en a parlé dans C'est pas faux. Le 8 octobre dernier, Astrid Vabré, Mériadeg Le Guil, Simon Le Hélo et Stéphane Pronost ont expliqué les relations entre les microbes et l'homme à l'aube de la pandémie de la Covid-19. Vous pouvez désormais revoir la table ronde en replay sur la chaîne YouTube de l'université.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux sur les doctorants de la science, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous en podcast sur phoenix.fm et puis à 13h dans quelques minutes, vous retrouverez Edgar pour la Méridienne.
Encore une fois, merci à Alan qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio Phoenix.